Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Hospitality, le podcast qui décrypte avec vous les visions de différents acteurs qui font bouger notre secteur de l'hôtellerie-restauration. Avec pour vocation l'inspiration, je vous invite à me suivre, moi, votre hôte Mathilde, à travers mes échanges spontanés avec différentes personnalités. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Nora Barrault, la cofondatrice de S'il vous plaît, la solution pour les restaurateurs, leur permettant de développer le click and collect dans leurs établissements, c'est-à-dire la commande en ligne. Aider ces restaurateurs dans la valorisation de leur métier et leurs activités sur Internet, c'est aussi l'objectif de l'agence de communication S'il vous plaît qui a été créée par la suite. Nora, la petite tête pensante de l'entreprise, nous raconte comment la création de son concept lui a paru comme une évidence alors qu'elle-même évoluait dans le secteur de la restauration à Paris. Un épisode qui est très enrichissant sur l'entrepreneuriat et qui soutient, comme d'habitude, la résilience propre à une personne qui n'a rien lâché, même sur un parcours jalonné d'obstacles. Très bonne écoute à vous. Bonjour Nora.
Salut.
Bienvenue sur le podcast Esprit Hospitality. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour cet épisode. Alors, comme on peut le lire beaucoup sur toi, tu te décris en tant qu'entrepreneuse en herbe et en os, restauratrice passionnée et manager décalée. Est-ce que je peux savoir ce que tu veux nous dire par là ?
Oui, donc c'est vrai que moi j'ai commencé à travailler en fait dans la restauration. Mon premier job c'était dans la restauration, donc c'est devenu très vite une passion et mon gagne-pain, et voilà, donc j'ai évolué dans ce milieu.
Donc tu as toujours connu ce milieu aussi de par tes études ?
Alors en fait, pour t'expliquer un petit peu, moi mes parents étaient restaurateurs.
D'accord, donc tu as déjà grandi dans ce milieu-là.
Exactement, je te dirais même dans un restaurant. J'ai grandi dans un
restaurant. Ah d'accord, donc tu as fait tes premiers plats très jeune, j'imagine.
Ouais, je devais avoir 3-4 ans et je traînais dans les pattes de mon père qui était chef cuisinier.
Et tu savais déjà à l'époque que tu allais en faire ton métier aussi plus tard, reprendre le flambeau familial ?
Alors pas forcément, parce qu'en fait, quand j'ai annoncé à mes parents que je voulais devenir moi aussi chef, je devais avoir 14 ans, en fait ils m'ont interdit de choisir cette voie. Ils m'ont dit non, c'est mort, déjà t'es une fille, et puis c'est un métier trop dur, et puis finalement ce métier il est nul. Et puis tu verras, c'est horrible, tu travailles 18 heures par jour. Du coup, je n'ai pas eu le droit à 14 ans d'aller dans le CAP que j'avais choisi. Et en fait, j'ai intégré un lycée dans une section artistique, donc en art appliqué. J'ai fait un bac art appliqué.
D'accord, donc tout à fait rien à voir.
Exactement. Et en fait, quand tu fais un bac art appliqué, bah, tu apprends à 14-15 ans à designer une chaise, une table, potentiellement un site web et puis une maison. Donc c'était vraiment top, mais disons que j'ai eu l'impression d'être responsabilisée très tôt, parce que c'est des études dures, t'as beaucoup de taf, et puis on te prépare au futur métier de designer, donc on t'explique tout de suite ce qu'est une facture, ce qu'est un prix.
Oui, finalement, c'est le fait de travailler déjà sur un métier, sur du professionnel, même avant le bac. C'est le but aussi du bac pro comme ça. Et c'est compliqué, je pense, quand on est très jeune.
Exactement. Franchement, c'est compliqué, mais d'un autre côté, ça te forme. Et du coup, moi, l'effet que ça a eu sur moi, c'est que ça m'a donné envie très vite d'être autonome financièrement. Donc en fait, j'ai commencé à bosser en terminale. Enfin, mon tout premier job, j'étais aide à domicile pour une handicapée. Pour t'expliquer, j'ai eu mon bac, donc j'avais ce petit taf d'aide à domicile. Et mon avenir était tout tracé, c'est-à-dire j'intégrais une école supérieure de design, et puis je faisais un master et je devenais designer.
D'accord, donc, c'était entre les deux.
Ouais. Et en fait, au bout de 3 mois, donc j'ai fait une école à Reims qui s'appelle l'ESAD, l'École supérieure d'art et de design de Reims. Et en fait, au bout de 3 mois, je me suis dit non, mais ça fait 3 ans que je fais du design et en fait, moi, ce qui me plaît, c'est la restauration.
Ça, tu le savais toujours au fond de toi, ça ne t'avait pas quitté.
Exactement, t'as tout compris. Bah, pour te dire, ma première carte de cocktail remonte à mes 9 ans. Mon père avait un resto touristique dans les Alpes. Et on avait beaucoup de touristes hollandais qui demandaient des cocktails. Et donc, du coup, j'ai fait ma première carte de cocktail pour mon père sur Word et Paint. Je pense qu'ils étaient absolument imbuvables. Je mettais du sucre glacé autour des verres, mais j'en mettais beaucoup trop.
Et ah, puis, tu les faisais vraiment ?
Ouais, ouais, je les faisais. J'étais derrière le bar, j'ai des photos et tout. C'est la belle vie. Du coup, en fait, j'ai planté mes études supérieures. Donc, ma mère était absolument pas contente. Et j'ai commencé à bosser dans la restauration. Donc, mon premier job, c'était à Paris, dans le 17e. Je suis tombée sur une belle brasserie à l'ancienne et j'ai été formée à la dure en salle. Donc, j'ai commencé par le bar et la salle. Et en fait, bah, quand t'as 17 ans, parce que moi j'ai un an d'avance, quand t'as 17 ans, tu gagnes 1600 euros par mois plus potentiellement 1500 euros de pourboire.
T'as pas la même vie que les autres de ton âge.
C'est ça, exactement. Alors c'est moi qui payais les tournées avec mes potes encore étudiants. Et en fait, j'ai continué toujours dans le même resto pendant un an et demi. Puis j'ai changé, enfin j'ai vraiment commencé à, je suis passée de runner à serveuse et puis de serveuse à chef de rang.
T'as monté les échelons progressivement. C'est ça aussi qui t'a motivée à rester, j'imagine.
Exactement, c'est ça. Et puis de voir que ton salaire évolue et puis que tu montes en compétences, tu prends des responsabilités, etc. Donc mon deuxième job, j'ai eu pas mal de chance. Je suis tombée sur des patrons qui ont racheté l'ancien restaurant de Julien Dubouet. Son deuxième resto à lui qui s'appelait Dans les Landes. Donc c'était un resto énorme. On faisait 200 couverts le midi, 300 le soir parce qu'il avait une notoriété de fada. Et en fait, on est tombé, on était tous nouveaux du jour au lendemain. Comme ça, la passation s'est faite. Donc une équipe nouvelle, deux patrons dont un chef et un autre qui ne connaissaient pas la restauration.
Et en D'accord. fait, on a dû... Pour l'ouverture, hein. Ouais. Sur l'ouverture à ce moment-là.
Exactement. Okay. Et en fait, on a dû tout recréer, quoi. Donc avec mes collègues, on a vraiment monté une vraie équipe de salle, on a monté les plannings, on a réfléchi aux shifts. Et en fait, tout ça, moi je devais avoir 20 ans.
Ah oui, donc ça a commencé très tôt à te mettre la puce à l'oreille sur... des petits indicateurs, on va dire, ce que tu pourrais faire en gestion.
Exactement. Et en fait, le fait d'avoir des patrons qui te font confiance comme ça, alors que la moyenne d'âge, elle devait être de 25 ans, que ce soit en salle ou en cuisine dans ce resto.
C'est super responsabilisant.
Ah ouais, ouais, carrément.
Et à ce moment-là, tes parents, ils avaient quel regard sur ce que tu faisais là ? Ils comprenaient que c'était vraiment ton secteur et que c'était vraiment ce que tu voulais faire ?
Alors écoute, moi mes parents sont séparés, donc ma mère n'a jamais compris et je pense qu'elle comprend toujours pas pourquoi j'ai abandonné mes études de design. Après elle est fière de moi parce que c'est une chouette maman, mais elle me pousse toujours et encore aujourd'hui à développer ma créativité. Et après mon père, il a fallu vraiment que je monte les échelons pour qu'il commence à être fier, parce que il a toujours dénigré son propre métier. Il a été chef jusqu'au dernier jour de sa vie. Parce qu'il est parti l'année dernière et en fait ça l'a tellement épuisé ce métier, parce que vraiment il a bossé 45 ans, 18 heures par jour en coupure, enfin
Tu ne souhaitais pas ça pour de lui, je vois, ce qui peut se comprendre, mais après il y a des nouveaux moyens aussi d'appréhender le métier aujourd'hui qui a beaucoup changé, j'imagine.
Ouais, exactement. En fait, c'est vrai que moi, j'ai plutôt démarré dans la restauration un peu à l'ancienne. Des grosses brasseries avec toute une hiérarchie, ton responsable qui est juste là pour te dire « Non, tu fumeras pas ta clope. Non, tu prendras pas ta pause. Non, finalement, tu finis pas à 18h. Tu fais le chiffre jusqu'à 2h. » Enfin voilà, moi, j'ai vraiment commencé là-dedans. Et quand je suis arrivée dans des concepts tenus par des jeunes, etc., ça m'a fait bizarre, quoi. Parce que c'est... Ouais, il y avait plus de liberté, je dirais.
Ouais, clairement, on n'est plus sur le même type de restauration.
Exactement.
Et du coup, là, on est en 2000 combien à ce moment-là, quand tu en es à ta deuxième ouverture, enfin ton deuxième job en restaurant ?
Eh bien, en fait, on est en 2014-2015. Donc, ça a duré, je suis restée un an et demi, pareil, chez eux. Et je ne sais pas du tout ce qui m'a pris et je cherche encore la réponse à cette question. Mais en fait, j'décide de reprendre mes études et de faire une première année de médecine.
D'accord.
Voilà.
C'est vrai que ça n'a complètement rien à voir. Tu as dû te dire, je touche pas assez de... Je suis pas assez créative, pas assez manuelle. Donc, tu te lances dans une passesse.
Exactement. Donc, je négocie une petite rupture conventionnelle sympathique avec mes anciens patrons qui m'ont vraiment énormément soutenue pour reprendre mes études et faire de la médecine. Et donc, je déménage à Lyon. Donc, j'étais à l'IUT de Lyon. Et je démarre ma première année de médecine.
Et alors, comment ça se passe? Tu savais dans quoi tu t'embarquais?
Alors, je savais un petit peu parce que j'avais quelques connaissances qui étaient médecins, etc. Donc, on m'avait dit, le fais surtout pas, c'est horrible. Il faut que ça s'approche. Surtout que j'avais pas de background scientifique. Mais les 6 derniers mois au restaurant, en fait, pendant ma coupure, je réapprenais le programme de première et de terminale S.
D'accord. Ouais, les bases.
Les bases, voilà. Et donc, j'arrive à Lyon, je me dis, bon, ça va le faire. Et en fait, j'intègre une fac avec 0 ami. Et finalement, je n'ai jamais parlé à une seule personne de toute mon année.
Ça a dû être super dur. Parce que déjà, en passé, c'est pas facile. Mais en plus, quand t'es pas forcément accompagné à côté, dans ta vie tous les jours personnelle, ça devait pas être évident quand même.
C'était pas évident du tout. Évidemment, ce fut un fail total. J'étais avant-dernière de la liste. Et je suis quand même allée jusqu'au concours. Et en fait, en parallèle, j'avais un peu préparé le fait de rentrer à Paris parce que je pense que je m'étais mis dans le crâne que je serais jamais médecin et que de toute façon, je n'étais pas très forte. Et du coup, on m'appelle et un ancien pote d'un des restos dans lesquels j'ai bossé me dit, écoute, il y a un ancien client qui ouvre son deuxième resto dans le sentier. Il cherche quelqu'un pour l'aider, etc. Et donc, je rentre à Paris, je passe un peu des entretiens avec un responsable de salle et en fait... Je craque un peu, je leur mets à moitié à l'envers, etc. Je leur dis non, mais finalement, je crois que je veux retenter médecine, etc. Et en fait, je suis tombée sur un gars absolument exceptionnel qui était le directeur du coup du premier resto de ce fameux entrepreneur qui me dit, écoute, t'as l'air un peu starbé, mais je t'aime bien. Donc, ce que je te propose, c'est que tu démarres d'ici 15 jours dans le premier resto, je te forme, et si ça le fait, c'est moi qui pars sur le deuxième, et toi, tu reprends le premier. En gros, c'était un peu le deal.
Super ! Ah oui, donc là, on te vend un package total, quoi.
Exactement. Et puisque rien ne se passe jamais comme prévu, en fait, j'accepte le job, je démarre. Donc, c'était un bistrot argentin dans le 17e. Je suis formée pendant 2 semaines, et finalement, le patron, qui est un tout jeune entrepreneur qui avait à l'époque 26 ans, qui était déjà à la tête du coup de 2 restos, me dit écoute, finalement je crois que je te veux sur le deuxième resto. On t'a formé dans le premier, le deuxième ce sera que le petit frère du premier, donc viens avec moi, on ouvre dans 3 semaines.
Ok, donc super quand même, c'est une ouverture qui est hyper intéressante aussi.
Et du coup, en fait, donc j'arrive là-bas, je rencontre la future équipe, donc notamment la directrice du matin, on s'entend très bien, etc. On me met un peu des petites responsabilités, donc je comprends que je vais être serveuse en coupure, etc. Et en fait, on décide d'ouvrir un peu à l'arrache pour voir ce que ça donne. Donc il faut savoir que c'est un resto qui existe encore, hein, qui est rue des Petits Carreaux à Paris. C'est une rue qui
s'appelle comment ?
Le Caminito. Et en fait, on ouvre le 25 mai et on se fait éclater. Mais littéralement éclater, ça sort de nulle part, mais en fait... Comme si les gens du quartier attendaient qu'une chose, c'est qu'il y a un bistrot qui ouvre à cet endroit, quoi. Et donc on se rend compte qu'on n'est absolument pas prêt, etc. Donc on décide de fermer une semaine et de revoir un peu les process. Et petit à petit, on rouvre, on se rôde, etc. On cherche une équipe. Et en fait, au bout de quelques mois, mon jeune patron de 26 ans, me dit... tu sais quoi, moi j'ai commencé la restauration à 17 ans et j'ai ouvert mon premier resto à 21. Je te propulse responsable du resto. Donc, waouh!
Ah oui, donc super sympa, il t'a aidé pour que tu fasses un petit peu la même route que lui, que tu prennes le même chemin.
Exactement, exactement. Et vraiment, il a été moteur même de ce que je suis aujourd'hui parce que voir un gars qui entreprend à 21 ans encore plus dans la restauration et en plus qui arrive à vraiment créer quelque chose, faire des super chiffres, avoir une très bonne équipe, un vrai concept, etc., je crois que ça donne juste envie de te faire ta propre expérience derrière, ouais, exactement. Du coup, voilà, je passe un an et demi avec eux, avec lui, on monte le resto, franchement, les 30 glorieuses, quoi, enfin, vraiment, resto de fou, on est adoré par notre clientèle, c'est juste génial, moi, j'ai une équipe avec moi qui me fait confiance, on est trop contents, etc.
Toi, t'avais quel rôle sur le resto, du coup ?
En gros, je partageais la direction avec la directrice du matin. Donc moi, je m'occupais de tous les shifts et l'équipe du soir et du week-end. Et on était un peu en binôme. Elle, elle faisait le matin et moi le soir. Et en fait, le patron, c'est un peu, effacé petit à petit parce qu'il était sur l'ouverture du troisième. Et donc nous, ça nous a vraiment permis, on avait 100% la main sur absolument tout sur le resto, à part les fiches de paye en gros. À part les fiches de paye, on touchait à tout.
Vous étiez à la gestion totale du resto, donc c'est là que tu as pu comprendre et faire tes armes dans le milieu vraiment pur et dur, dans l'opérationnel, sur droit de regard à tout.
Exactement, et du coup ça a eu l'effet sur moi de me faire flipper d'ouvrir mon propre resto parce que je trouvais que c'était un taf de taré, que le turnover dans la restauration c'est vraiment, c'est ce qui peut te miner en tant que restaurateur quoi. Tu crois que t'as ton équipe, tu crois que t'es bien, t'es en plein mois de mai, tu prépares ta saison et là t'as ton barman qui te dit « désolé je m'en vais », ton chef qui a été débauché par un autre et patatras et tu redémarres à zéro. En gros ça a été ça notre première année. Très très compliqué de garder notre équipe, mais vraiment pas de notre volonté quoi. On avait des bons et pour les garder, fallait les payer très très cher et en gros ils pouvaient pas trop et vraiment dommage quoi. Et donc là je me dis waouh, si ça c'est le quotidien d'un restaurateur plus toute la merde opérationnelle à gérer à côté, très peu pour moi, je n'ouvrirai jamais de restaurant.
Ouais, tu te sentais pas de gérer tout ça.
Exactement.
Ok. Parce que là à ce moment-là, tu avais un projet de éventuellement te lancer toute seule avec ton concept à toi ?
Franchement, ouais, j'y réfléchissais. Je me disais que c'était impossible, etc. Et en fait, quand j'y réfléchissais, il y a une autre idée qui m'est un peu tombée tout cru entre les mains. Et du coup, j'ai commencé un peu à tirer les ficelles et c'est ça qui fait ce que je suis aujourd'hui. Donc, pour t'expliquer un peu mieux, en gros... Puisqu'on a ouvert ce resto vraiment à l'arrache et que finalement on a explosé le prévisionnel, etc., on se retrouvait avec beaucoup de clients à gérer, mais pas assez de perso, ou alors en fait juste nos frigos étaient trop petits et on avait une trop grosse terrasse, enfin vraiment des trucs tu sais, que tu peux même pas prévoir.
Vous étiez obligé de refuser des clients même?
On refusait énormément, pourtant on prenait pas de réservation, notamment tu vois sur toute la saison, on prenait pas de réservation en terrasse et on arrivait quand même à refuser, et les gens attendaient, ils faisaient la queue, enfin c'était un truc de fada.
Combien de couverts ?
Alors, en configuration d'hiver, t'as 50 couverts à l'intérieur. D'accord. Et en fait, en été, on doublait dehors. Donc ça faisait 50-50.
Et, oui, donc c'est déjà pas minuscule non plus.
Ouais, franchement, c'était...
Paris, ça allait.
Ouais. 4 chefs de rang, 3 personnes en cuisine, 2 équipes, une du matin, une du soir, ça commençait à faire pas mal, quoi. Et du coup, en fait, je me dis, ah là là, c'est un truc de fou parce que sur tout le créneau, tu vois, 15h, 18h, où tu fais ce qu'on appelle de la limonade, je me disais, on prend un serveur pour faire le service, on prend un barman, et finalement, en fait, il y a plein de moments où, tu vois, ils avaient pas grand chose à faire, tu vois, ils attendaient un peu le client, et je me disais, c'est quand même bizarre d'agir comme ça. Et du coup, ça avait pour effet, parce que moi, je me suis très tôt intéressée au management, ça avait pour effet pour le serveur de, en gros, commencer son shift à 15h et en fait, ça l'endormait dès le départ.
Oui, c'est ça, démotivation complète.
Ouais, carrément.
Et comment retenir du staff dans ces conditions-là, bah, c'est vrai que c'est compliqué.
Et du coup, je me suis dit, ok, je suis sûre qu'il y a un truc à faire sur le créneau de l'après-midi en ayant un staff réduit, notamment peut-être juste un barman pour qu'il fasse sa mise en place pour le soir. Et qui soit juste à l'envoi, quoi. Et du coup, je décide de mettre mon numéro de téléphone au marqueur blanc sur les tables en terrasse.
Ouais, c'est dangereux, ça.
Avec un petit mot, ici, on commande par texto, c'est beaucoup plus facile. Je crois que j'avais écrit ça.
Donc, tu réfléchis déjà, t'es dans les prémices des solutions digitales qui existent maintenant avec les QR codes sur les tables.
Ouais, mais en fait, je le savais pas, quoi. Parce que le monde... digital, start-up, techno, moi j'en étais hyper éloignée quoi. Enfin, je savais pas ce qu'était un incubateur, une start-up, une levée de fonds, ce que tu veux. J'ignorais tout ça. Et en fait, il se trouve que ce resto-là, il est dans le Sentier et qu'à Paris, dans le Sentier, t'as 80% de la tech, de la French tech est dans le Sentier quoi. C'est un peu the place to be. Et donc, quand je fais ça, j'ai une table un jour qui vient et qui me dit putain, c'est trop génial de commander par texto. Du coup, ils se faisaient des petites tournées surprises. Il y en a un qui commandait un peu sous la table. avec des petites planches de charcutes en mode surprise à ses potes.
Ouais, c'est un moyen de surprendre, ouais, effectivement.
Exactement. C'est sympa. Et en fait, cette équipe-là, ils étaient dans un incubateur au bout de la rue, quoi. Et ils me disent, t'as déjà pensé à monter ta boîte et à en créer une vraie solution digitale qui permettrait de commander depuis ta table en terrasse? Donc je dis non, pas du tout, j'ai jamais pensé à ça.
Et là tu te dis, ok, j'ai eu une idée qui peut éventuellement marcher là, si on me le fait remarquer.
C'est exactement ça, et là c'est en gros on est en mars 2017, et là l'idée commence à germer. Il se passe un truc, je comprends qu'il y a plein de choses à faire dans la restauration. Comme je t'ai dit, moi c'est un milieu, enfin vraiment, déjà j'ai un attachement particulier, parce que quand tes parents font ça...
Oui, t'as une attache familiale déjà à ce monde-là.
Et en plus, vraiment, je suis fan de ce métier et je trouve qu'il a, il a pas de fin, quoi. T'apprends tous les jours, tu gères de l'humain, mais vraiment avec beaucoup de passion et souvent, on devient amis avec ses collègues, etc., et avec ses clients. Et donc, c'est un truc, voilà. Tu mets beaucoup de ta personne, en fait, dans ce métier. Et avec toute cette passion, je me dis, ok, bah, je commence à faire des recherches, comment intégrer un incubateur, comment monter un projet. Je crois que je me souviens avoir cherché sur Google comment monter une start-up. Et effectivement, du coup, je me dis, mais quel débile. Enfin voilà, plein de petits trucs comme ça.
Ok, donc les débuts de l'aventure entrepreneuriale, c'est ça.
Exactement. Et du coup, je décide d'être super honnête dès le départ avec mon patron, en lui disant, voilà, j'ai eu une idée, quand je suis pas au resto, je travaille là-dessus, mais je crois que j'ai envie de le faire avec vous, quoi. Et en fait, il a été super cool, il m'a laissé faire tout un tas de tests au resto, sans jamais rien me demander en échange, donc j'ai pu tester plein de choses, j'ai testé de mettre des post-it, et puis... de rajouter le numéro de table, donc t'avais le client qui envoyait son petit texto en disant son numéro de table, etc. Donc vraiment, je me suis bien amusée.
Donc t'étais dans ton incubateur personnel, quoi.
Exactement, c'est ça. Et du coup, en parallèle, je postule un bootcamp, donc une petite formation de 3 jours, dans l'incubateur, un incubateur 100% féminin qui s'appelait Paris Pionnière et qui s'appelle maintenant Willa.
Qui était spécialisée dans les métiers de la restauration ou pas du tout ?
Pas du tout, absolument pas. Leur leitmotiv, c'est de passer de 8% de femmes dans l'entrepreneuriat à 50% sur les 10 prochaines années.
C'est cool pour nous.
Carrément. Et du coup, très bonne ambiance. Voilà, donc on n'était que des femmes et on fait cette formation sur 3 jours où en gros, on t'apprend à tester ton idée, à en parler autour de toi, à réfléchir à un business model... Enfin, vraiment, voilà, on te permet de passer de l'idée à un truc un peu plus concret, quoi. Et franchement, je sors de ces 3 jours, donc j'avais posé des congés au resto. La petite anecdote, c'est qu'en fait, cet incubateur, il est juste à côté du resto où je bossais. Et donc, du coup, le midi, j'allais déjeuner dans le resto où j'étais responsable. Donc, c'était assez marrant. Je voyais mes clients qui me disaient « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Je sors de ces 3 jours j'ai eu l'impression qu'ils ont duré 3 mois, tellement j'ai appris en 3 jours. Et là, je me dis « Ça y est, je veux faire ça de ma vie, en fait. Je veux monter ma boîte. Je veux voir où ça peut aller, cette idée de commander depuis ton téléphone. J'y vais, quoi. » Et donc, je négocie mon départ, et rien ne se passe comme prévu, et tout se passe mal, et finalement, je m'embrouille avec la moitié de mon équipe, mon staff et mon patron. Mais depuis, j'ai fait mon deuil.
Tu ne voulais pas t'accompagner dans la démarche ?
Bah, j'étais jeune aussi, donc moi aussi, j'ai fait des bêtises, et j'ai un peu cru que... Ouais, je me suis prise pour une grande pendant quelques mois, alors que j'étais pourtant si jeune, et voilà, et je pense qu'il avait juste envie de me faire redescendre sur terre et moi j'avais pas envie à l'époque. Donc voilà, donc ça a un peu semé. Mais voilà, je pars au milieu de l'été et puis je me prends 6 mois tranquillou pour réfléchir et voir un petit peu si j'intègre un incubateur, comment je peux faire. Je me mets à chercher un associé qui pourrait prendre le rôle du développeur et vraiment du CTO, celui qui va s'occuper technologiquement de monter cet outil.
Oui, parce que clairement, il te manquait les compétences de développement sur d'une application, d'une plateforme digitale, en fait.
Ouais, exactement.
Parce que toute ton idée était basée sur le digital à cette époque-là. Enfin, c'était pas encore très peaufiné, mais t'avais une petite idée de comment ça allait se finir.
C'est ça qui est marrant, c'est que si je devais le refaire aujourd'hui, je le ferais pas du tout, mais en fait, les premiers réflexes que j'ai eus, ça a été de chercher un nom. Donc, c'était « S'il vous plaît », du coup.
Ok. Pourquoi ce nom, du coup ?
Franchement, ça m'est venu comme une évidence. Les clients disent tellement « S'il vous plaît » au resto. Je me suis dit, mais ça ne peut pas s'appeler autrement. Ça doit s'appeler « S'il vous plaît ».
C'est vrai que c'est bien trouvé.
Et du coup, la première chose que j'ai faite, j'ai déposé la marque à l'INPI. Ça m'a coûté une blinde. J'ai acheté un nom de domaine.
Mais ça, sans être sûr que tu allais te lancer avec l'outil, finalement.
Ouais, sans être sûr. En fait, je crois qu'on est tellement bercé dans ce truc où on te dit que l'idée fait le taf. J'ai tout misé là-dessus, quoi. Et j'en ai même dépensé de l'argent sans savoir ce que s'il vous plaît allait être, finalement.
Donc, finalement, t'as eu de la chance que ça se termine bien, entre guillemets. Enfin, du moins, pour l'instant, ça...
Pour l'instant, exactement.
C'est bien passé.
Ouais, exactement. Et du coup, je mets 6 mois et en fait, on est en avril 2018. J'ai trouvé un CTO qui est encore aujourd'hui mon associé, François. Et je démarre l'aventure aussi avec un ami d'enfance que j'avais pas vu depuis 15 ans, qui en fait, lui aussi, avait un background restauration. C'est connu vraiment très petit. Moi, j'étais à l'école primaire et lui au collège. Et c'était le meilleur ami de mon frère quand on était petit, si tu veux tout savoir.
Ok, donc ça remonte à une amitié d'enfance qui finalement a pu continuer dans le professionnel. C'est super.
Et du coup, on démarre tous les trois. Donc en avril 2018, on démarre dans un incubateur qui s'appelle le School Lab.
Toujours sur Paris ?
Ouais, et aussi et toujours dans la rue du resto où je bossais. Donc en fait, je suis restée dans le sentier une éternité, j'ai l'impression. On avait prévu que ce soit un outil pour que tu puisses commander depuis ta table en terrasse. Et puis finalement... on se rend compte assez vite que la restauration en France, ça reste un truc où, tu vois, le serveur, il a une place super importante, quoi.
Oui, c'est ce que j'allais dire, le relationnel dans tout ça. Parce que finalement, on a besoin quand même, quand on va au restaurant, on a besoin d'avoir cette expérience où on voit le serveur qui vient nous parler, discuter, nous proposer les choses qu'il y a sur la carte. Et finalement, mettre un outil qui nous permettrait de directement commander, on n'a pas ce lien. Qui est peut-être infime, mais qui est quand même là pour construire aussi notre expérience autour.
Exactement. Franchement, tu as tout résumé. Et du coup, à cette époque-là, on est allé interviewer beaucoup, beaucoup, beaucoup de restaurateurs pour pas rester dans nos propres cercles, tu vois, parce qu'après, tu as tendance à parler que à tes potes restaurateurs. Et...
Oui, vous êtes allé sur le terrain faire une étude de marché un petit peu.
Exactement. Et en fait, moi, mon analyse, et en plus, en tant qu'ancien manager, je me disais, mais n'importe quoi, on parle du lien avec le serveur, mais finalement, des bons serveurs, il n'y en a pas tant que ça. Des serveurs qui ont vraiment un côté relationnel et qui arrivent à te faire revenir les clients, etc., il n'y en a pas tant que ça. Donc moi, j'étais vraiment dans mon esprit, n'importe quoi, moi, je vais révolutionner le monde de la restauration. Et en fait, on se prend, je crois qu'on a parlé à 50 restaurateurs et on a eu 50 « non merci ».
Ah oui, ça les intéressait pas.
Et par contre, en fait, un de mes associés, celui qui travaillait dans la restauration, Rémi, lui venait du milieu de la street food, donc du food truck en particulier. Donc c'est un métier complètement différent où t'es très mobile et où finalement ta clientèle, ça peut être plein de gens différents. Ça peut être le midi sur les tours à la Défense et le week-end sur un festival type Lollapalooza, quoi. Et
puis il n'y a pas du tout le même relationnel que dans un resto traditionnel.
Exactement. Ouais. Et on se rend compte que, eux, leur plus grosse problématique, c'est la file d'attente. Parce qu'en fait, si t'as trop de files d'attente, tu perds des clients. Mais si t'en as pas, tout le monde croit que c'est pas bon. C'était une grosse problématique. Et donc, on démarre un peu comme ça, avec un premier client, puis un deuxième, puis un troisième. Et puis...
Donc, que des food trucks, sur le moment.
Que des food trucks, exactement.
Parce que la solution digitale avait un intérêt pour eux. Donc là, exactement, vous dites... Ouais. On y va. Et là, à ce moment-là, je rembobine un tout petit peu, mais à ce moment-là, la marque est déjà créée, vous avez tout fait, vous avez tout mis l'outil digital en place et vous vous lancez avec des clients.
Alors non, pas du tout. Enfin, dans le sens où François, mon associé développeur, a construit ce qu'on appelle un MVP. Donc c'est une sorte de petite solution qui est fonctionnelle, mais qui est dégueulasse et qui pourra pas devenir le Deliveroo de demain, tu vois. Mais au moins, ça marchait. Ça s'appelait s'il vous plaît, d'ailleurs. C'était une petite appli, même une web app, c'est-à-dire que ça fonctionnait depuis Safari, Chrome, depuis ton téléphone, etc. Et en fait, tu pouvais voilà, commander chez nos clients qui étaient donc des food trucks. Alors après, c'était pas, voilà, c'était pas une machine de guerre, mais ça fonctionnait.
Ça marchait avec des QR codes justement ou pas du tout ?
Exactement. C'était en fait, tu scannais un QR code, ça t'ouvrait la page de commande. Tu commandais un peu à la manière voilà, de Uber Eats ou de Deliveroo. Tu avais une photo, une description, un prix. Ensuite, tu payais et l'idée, c'est que tu recevais un texto dès que ton plat était prêt.
Donc à la même manière que les beepers dans certains restaurants.
Exactement, c'est ça. Et donc, on se rend compte qu'en fait, en faisant ça, donc on a 1, 2, 3, puis 4 food trucks, parce qu'en plus, c'est un petit milieu, donc ils se parlent beaucoup, etc.
Et à l'époque, il n'y a aucun concurrent, vous êtes les premiers sur le marché.
Alors non, petit à petit, on se rend compte qu'il y a déjà des concurrents, et ça n'a fait que s'aggraver. Enfin, c'est très bien, parce que ça veut dire qu'il y a un marché, et ça fait vivre l'écosystème, et puis ça nous permet voilà, de mener une petite guéguerre auprès de nos prospects, etc. Et puis, voilà, vraiment, ça fait vivre le projet d'avoir des concurrents. Sinon, c'est un peu flippant. Si t'as pas de concurrents, c'est bizarre. Donc voilà, on a des concurrents, mais il y en a pas beaucoup qui parlent avec les food trucks, parce que les food trucks, c'est les grands oubliés de la restauration. Il y a pas beaucoup de solutions spécialisées pour eux.
C'est dommage, parce que pourtant, c'est un milieu qui se développe petit à petit, là, avec tous les food courts, avec justement être présent sur tous les festivals, même à la sortie du boulot, hein, je pense qu'ils ont leur place de marché à prendre. Hein.
Après, le problème du food truck, c'est qu'en fait, t'as pas beaucoup d'argent quand t'es un food truck et ton chiffre d'affaires annuel, il est limité, en fait. Parce que t'as un camion, tu peux pas mettre 8 personnes qui cuisinent en même temps dedans, donc tu peux pas servir 8000 couverts. C'est un petit entrepreneur, un food trucker, mais en général, il se sert de ça pour ouvrir son resto en propre. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont fait les tout premiers food trucks avec qui on a bossé. Aujourd'hui, ils ont quasiment tous leur resto, et ça fait plaisir d'ailleurs, ça nous émeut de voir ça. Mais c'est un très bon tremplin pour les restaurateurs qui auraient envie de tester un concept. En fait, c'est un petit investissement en food truck.
C'est un mini incubateur finalement, pour voir si leur produit plaît.
Après, voilà, faut être garagiste, cuisinier, manager, voiturier, faut être un peu tout ça en même temps, quoi.
Du coup, vous vous lancez avec ces premiers food truckers.
Ouais, on passe toute la saison 2018 avec eux, donc on les suit sur chacun de leurs emplacements, comme ils disent. Donc, ça peut être autant le midi, voilà, à la Défense ou dans des quartiers d'affaires. Le soir, notamment toute la saison juillet-août, ça peut être sur des petits street markets, street food markets dans des petites villes type Asnières, etc., où t'as une clientèle plutôt familiale. Et puis, on les suit aussi sur les festivals, donc Lollapalooza, Solidays, Rock en scène, etc. Et on les suit sur les salons professionnels, notamment à la Porte de Versailles. Et en fait, on se rend compte petit à petit que vraiment, la commande en ligne, ça peut avoir un avenir, quoi. Parce que les gens, ils commandent, ils aiment ça. Ça leur évite de faire la queue. Ça leur évite une longue file d'attente parfois sur certains événements. Il faut savoir que sur des festivals, tu peux attendre, sur tout ton week-end, tu peux attendre jusqu'à 7 heures pour manger, quoi. Donc en fait, tu passes 48 heures dans un festoche, 7 heures à faire des files d'attente.
Oui, donc vous aviez vraiment un intérêt de proposer ce genre de solution.
C'est ce qu'on se dit, en tout cas, voilà, en 2018. Alors après, on rencontre évidemment, je te passe les détails, mais on rencontre à peu près 1500 problèmes opérationnels par jour. Donc on se rend compte que notre solution, on l'a super mal pensée, que quand ils reçoivent une commande, finalement, ils veulent avoir un bon, un ticket, tu vois. Ce qui est logique, hein. En plus, je viens de la restauration, donc j'aurais dû y penser. Et en fait, on n'y avait pas pensé, donc François se met à chercher des solutions pour pouvoir faire imprimer un bon, et je crois qu'il a passé un an à chercher une solution pour vraiment que ça fonctionne pour tout le monde, etc.
Ouais, la solution ultime et parfaite qui soit un peu standard.
Exactement. Donc après cette saison folle où franchement on n'a pas compté nos heures mais on s'est fait un sacré réseau de food truck, on réfléchit à une première version vraiment fonctionnelle de notre outil. De septembre 2018 à avril 2019, l'année dernière, on s'est vraiment mis en pause. On a gardé nos clients quotidiennement mais on n'est pas allé en chercher de nouveaux. On travaillait avec une quarantaine de food trucks toute la saison 2018-2019. Et en fait, on a décidé de co-construire avec eux une nouvelle version de ce qu'on faisait, mais en intégrant toutes leurs problématiques opérationnelles et tous leurs rêves et tous leurs désirs et toutes leurs envies.
C'est-à-dire, est-ce que tu en as des principaux à citer ?
Je te donne un exemple. Quand tu fais du burger, il faut que ton client puisse enlever un ingrédient, typiquement, je sais pas, enlever des oignons ou alors rajouter du cheddar.
Ok.
Et ça, si tu travailles par exemple avec quelqu'un qui fait du sushi, bah, c'est une problématique à laquelle tu penses même pas, en fait. Parce que tu vas pas venir rajouter du saumon sur ton sushi au saumon, tu vois. Ouais. Et en fait, petit à petit, on se rend compte que, ok, bah, celui qui fait du burger, il a cette problématique. Celui qui fait du grilled cheese, il a celle-ci. Et puis le pizzaiolo, c'est celle-là, etc., etc. Et donc, en fait, on fait un, ouais, vraiment un éventail de fonctionnalités. Y en a un qui voulait que les bons s'impriment automatiquement. Il y en a un autre qui a des grosses problématiques de gestion de stock. Donc, il voulait pouvoir refuser les commandes au cas où il n'est pas le plat commandé par son client. Il y en a un autre qui voulait gérer son stock en amont parce qu'en fait, quand il charge son food truck, il met 100 plats dedans et une fois que les 100 plats sont vendus, il ne peut plus rien faire puisqu'il a pas, il peut pas faire de la prod sur place, etc., etc.
Oui, donc ils avaient chacun leur petite requête et vous les avez collectées en fait.
Exactement, c'est exactement ça. Et c'est typiquement le genre de truc alors, à faire parce que c'est cool, tu vois, tu réponds à des vraies problématiques, etc. Mais en fait, du coup, tu t'éparpilles et tu finis par avoir du tout et du n'importe quoi et 1500 fonctionnalités à gérer que personne n'utilise, en fait.
Bah, c'est vrai que là, ça a dû être assez consistant comme travail de rechercher une solution à chaque problématique. Vous avez dû y passer du temps.
Je te le confirme vraiment. Mais finalement, voilà, l'année dernière, en avril, bah, ça y est, on est prêt. Notre solution est prête. Donc, on l'a fait tester à nos 40 premiers clients. Et puis, il y en a certains qui nous disent que finalement, ils ne veulent pas trop travailler avec nous parce que du coup, on commence à leur dire que ça va être payant, tout ça.
Ah, parce que vous faisiez ça gratuitement jusqu'à maintenant, cette solution ?
Alors, on ne faisait pas ça gratuitement, mais en fait, on faisait payer. C'était un peu étrange, mais ça fonctionnait bien. On faisait payer le client final, en fait. Celui qui faisait pas la queue, il payait 10% de plus pour ne pas faire la queue.
Ok. Bon, c'est une bonne stratégie, finalement. Parce que je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui sont prêts à faire ça, notamment sur les festivals.
Ouais. Ah ouais, mais même 10%, c'était limite pas assez, en fait. C'est vrai que pour le client final, pour le consommateur, faire la queue, c'est une telle perte de temps que ça vaut 1 euro pour 10 minutes, mais 5 euros pour 1 heure, et puis peut-être 10 euros pour 2 heures. C'est très corrélé à ton temps d'attente, quoi. Mais en fait, on se rend compte que en faisant ça, en faisant payer le consommateur, on avait des grosses problématiques d'intermédiaires. Donc c'est un peu la grosse problématique que peut avoir Deliveroo, par exemple, aujourd'hui. Puisque Deliveroo, il ne fait que mettre en relation des restaurateurs et des clients. C'est eux qui gèrent les problèmes avec les consommateurs, les problèmes avec les clients. Et donc typiquement, nous, on l'a vécu à notre moindre échelle, hein. On n'avait que 40 clients. Mais en fait, j'avais mis mon numéro perso dans les mails automatiques. Merci, t'as commandé prête, etc.
Donc c'est toi qui prenais tous les mauvais avis derrière.
Mais j'ai eu des appels à 1h du mat. Ouais, j'avais commandé un Coca Light, j'ai eu un Coca Zéro. Oui, super, et qui es-tu, monsieur? C'était que ça. Qu'est-ce que ça. Des commandes en double, des gens qui voulaient être remboursés, etc. Donc en fait, c'est devenu l'horreur, quoi. Du coup, on a décidé d'arrêter de faire du B2C, c'est-à-dire qu'on a décidé de vraiment vendre une solution au restaurateur et après, il l'exploite comme il veut. Donc en fait, on a fait, plutôt que s'appeler Souplay pour le consommateur, on a décidé de mettre en avant la marque du resto et de faire croire que c'est voilà, une solution développée par le resto.
Pas insensé à premiers abords. Et qu'est-ce qu'en pensaient les restaurateurs, enfin les food truckers à l'époque ?
Ils étaient assez contents. Après, eux, ça leur allait bien aussi de ne rien gérer. Sauf que voilà, on leur prenait, du coup, on leur prenait une commission. Et en fait, il y a eu un gros. À partir de 2018, il y a eu un gros changement. Les restaurateurs en ont eu marre d'être commissionnés parce qu'en fait, entre la commission, comme je t'ai dit, voilà, Deliveroo, Just Eat, Uber Eats, et puis après les solutions de click and collect, en fait, finalement, tu te retrouves avec.
C'est beaucoup d'intermédiaires.
Et du coup, nous, on s'est dit, ok, on fait pas de commission, mais par contre, on fait de l'abonnement mensuel. Ce sera une solution en marque blanche, donc elle vous appartient, et vous gérez vous-même le support client avec vos clients, parce que ça reste vos clients.
Oui, ce qui est très bien, à mon avis aussi. Enfin, ça a du sens.
Et ben, ça a du sens, mais du coup, on s'est retrouvé à perdre, du coup, des food trucks avec qui on bossait. Parce que pour eux, du coup, ça leur allait pas du tout. Et puis,
c'était chronophage.
Puis c'était chronophage. Et puis finalement, ils avaient pas assez de commandes pour que ce soit rentable de payer un abonnement mensuel. Et là, on a découvert, du coup, la problématique numéro un. Et c'est celle de tous ceux qui essayent de vendre quelque chose. C'est la communication. comment tu communiques, comment tu dis aux gens que tu peux commander en avance, et puis les gens, comment tu les trouves, et puis comment ils tombent sur ta plateforme de commande en ligne. Et donc, c'est tout cet amont auquel on n'avait pas pensé en faisant notre recherche pendant un an. Parce que voilà, nous, on distribuait des flyers, on parlait aux gens, on disait, tu sais que tu peux commander en ligne, etc. Et en fait, dès le jour où on a arrêté de faire ça, nos chiffres ont complètement baissé, quoi.
C'est comme si vous n'existiez plus pour eux.
Exactement, c'est exactement ça. Et du coup, c'est un petit peu comme ça qu'est née la version actuelle de Supplay, donc celle qui existe depuis l'année dernière, depuis un an maintenant. En gros, à tous nos clients, ce qu'on leur propose, c'est voilà, on les équipe en commande en ligne, click and collect, etc. Et par contre, on leur propose en option un accompagnement stratégique sur de la communication et du marketing.
Donc, une nouvelle corde à votre arc.
Exactement. Et en fait, ça devient très juste, je dirais. Du coup, ça devient facile de calculer ce qu'on leur apporte, puisqu'on leur met entre les mains un outil de commande en ligne et on crée des stratégies pour générer du chiffre d'affaires.
Donc, de A à Z, il y a la solution, en fait.
Exactement. Et en fait, imaginons, on monte une stratégie sur 3 mois avec un client, on commence avec 2 ou 3 commandes par jour et au bout de 3 mois, on finit à 30 commandes par jour. Il a payé sa petite prestation de stratégie de com. Et derrière, en fait, lui, il a tout le terreau fertile pour maintenir ses 30 commandes par jour et limite augmenter.
Ok, donc ensuite, c'est à lui de continuer à mettre en place cette solution au sein de son établissement.
Exactement.
D'accord. Et vous, après, vous n'intervenez plus ?
Alors si, il y en a même certains qu'on accompagnait d'ailleurs encore aujourd'hui à cause du coronavirus, mais il y en a qu'on accompagne depuis le tout départ. En stratégie de com, voilà, ils ont un frais fixe mensuel et on calcule le retour sur investissement finalement. On est revenu à quelque chose d'assez classique dans le business, c'est-à-dire combien tu me payes, combien je te rapporte.
Ok, je vois. Et du coup, sur le moment, vous avez commencé à vous expandre plus sur des restaurants plus traditionnels ou ça reste que sur des food trucks finalement comme aux prémices ?
Alors sur la partie commande en ligne et click and collect, on a des food trucks toujours. On a de la street food mais qui ont des lieux en dur. On a aussi une sorte de food court. Et donc là-dessus, on est resté sur de la vente à emporter. Quel que soit le plat d'ailleurs que tu fais, mais donc en général, c'est plutôt de la street food qu'on a l'habitude de manger à emporter, même si ça risque de changer. L'important, c'est que tu fasses de la vente à emporter. Et après, pour nos prestations de communication, ce qui est top en fait dans la restauration, c'est que si un restaurateur satisfait, il te recommandera à au moins 5 autres restaurateurs.
C'est un bon indicateur, ça.
Et en fait, ça a un peu créé un effet boule de neige l'année dernière parce que, sans faire exprès, on a touché des sortes de réseaux de restaurateurs. Donc, on a commencé par un resto, puis 2, puis 3, puis 4. Et donc, maintenant, je te dirais que on, dans notre portefeuille client, on va avoir de la brasserie traditionnelle, on va avoir du food truck toujours, mais on va aussi avoir des projets un peu plus larges, type Dark Kitchen, quelqu'un qui a envie de monter un concept et qui a envie de se faire accompagner là-dessus.
Donc, Dark Kitchen pour... Pour la référence, donc c'est tout ce qui est cuisine sans service à table. C'est vraiment juste le local pour cuisiner.
C'est même sans façade. Enfin, c'est vraiment un endroit, ouais, un lieu de production qui fonctionne en général en delivery, en livraison.
D'accord.
Et qui peut éventuellement avoir une façade pour la vente à emporter, mais en effet, tu ne rentres pas dans le lieu.
Et ce genre de structure a besoin d'une stratégie de communication ?
Ouais, parce qu'en fait, les seuls acteurs qui te permettent de faire de l'acquisition client, c'est les marketplaces type Deliveroo et Uber Eats.
Ouais, forcément.
Sauf que tu perds 30% de ton chiffre d'affaires.
Et du coup, le fait de leur donner aussi une ouverture digitale, enfin sur les réseaux sociaux, leur donner une devanture sociale, ça leur permet d'acquérir de nouveaux clients ?
Exactement.
Mais sur quel biais ? Parce qu'ils vont toujours passer par de la livraison avec des plateformes en ligne, non ?
Alors, il y en a certains qui, oui, restent uniquement sur les plateformes. Mais après, t'en as d'autres qui prennent des solutions, du coup, de click and collect, de commande en ligne, mais aussi de livraison sans intermédiaire. Tu peux avoir ton propre outil de livraison en ligne, notamment sur Paris avec Stuart. C'est-à-dire que ton client, il va sur ton site internet... Il passe commande, il sélectionne son créneau horaire et en fait, il se fait livrer par un prestataire logistique.
D'accord. Ok. Donc, c'est les nouvelles solutions pour faire face aux plateformes alors.
Exactement. Nous, c'est un truc qui nous tient à cœur, hein, parce que les plateformes, même si c'est très cool, hein, c'est très chouette que ça existe, notamment pour le consommateur, ça crée aussi du business pour les restos, etc. Mais en fait, c'est un cercle vicieux, quoi. Et quand tu fais ton bilan et que tu te rends compte en tant que restaurateur que 30, 50, voire 70% de ton chiffre d'affaires annuel, il est généré par un intermédiaire. Déjà, tu pérennises absolument pas ton business. Demain, il y a Deliveroo qui décide de se retirer du marché français. Ton business, il vaut plus rien.
Oui, donc c'est bien de développer des dark kitchens, mais heureusement que vous êtes là pour les accompagner aussi sur un autre côté de leur service, finalement.
Exactement.
Ok, donc tu disais, vous êtes sur un portefeuille client assez large. Est-ce que c'est finalement maintenant vous qui choisissez vos clients? Est-ce que vous choisissez toujours le même type de client ou bien est-ce que c'est eux qui vous choisissent et viennent vous trouver?
Alors, vraiment très bonne question. On choisit pas nos clients dans le sens où on accompagne tout le monde. Par contre, on ne s'engage pas sur un retour sur investissement si on estime que la mission première du restaurateur n'est pas effectuée à notre goût, hein. C'est-à-dire, la mission première, c'est faire du bon, juste que ce soit bon, quoi. Et en fait, c'est vrai qu'on a eu des clients à qui on a fait mais des petites prestations, hein, des flyers, un petit site internet, etc. Et en fait, on se rend compte que c'est pas un restaurateur, quoi. C'est un investisseur qui va t'acheter tous les produits les plus dégueulasses du fin fond du métro le plus pourri de France et qui a envie de devenir... demain, le futur au tacos, quoi. Et en fait, ça, alors c'est très particulier et faut le dire gentiment à nos clients et voilà, et on essaye de pas les froisser, mais en fait, ça nous intéresse pas parce qu'on sait qu'on sera mauvais. On sait qu'on n'arrivera pas à les accompagner tout simplement parce qu'il va nous manquer quelque chose. C'est, comme je te le dis depuis le début de cette interview, c'est la passion, quoi. Si on sent que lui en face de nous, il est pas passionné, ça aboutira à pas grand chose.
Oui, il faut que vous croyiez aussi en le projet.
Exactement.
Sinon, aucun intérêt. Et quand tu dis on fait des petites prestations, donc site internet ou bien flyer, parce que c'est quoi les grosses prestations du coup?
Alors, ce qu'on appellerait un gros client, c'est quelqu'un qui a une idée en tête, qui a un projet, qui éventuellement a déjà son local et qui va avoir besoin d'un accompagnement 360 sur sa stratégie de com, sur son ouverture. Ça, c'est un client.
Donc vous êtes plutôt sur des ouvertures de resto, vous les accompagnez sur les débuts de la promotion de leur restaurant?
Alors, on n'est pas forcément spécialisé là-dedans, mais en fait, on a un réseau qui, notamment le chef Alexandre Marchon, qui est un chef exécutif qui a vraiment l'habitude d'accompagner ses clients sur de l'ouverture et du consulting pour créer des cartes de saison, des fiches techniques pour les cuisiniers. Et surtout une liste de fournisseurs, enfin voilà, un vrai process au sein d'une cuisine. Lui, par exemple, c'est quelqu'un avec qui on travaille souvent, et à chaque fois qu'il est sur une ouverture, on devient un peu l'agence de com du restaurateur qu'il y a derrière, quoi.
Ok, sympa.
Bah, en fait, le réseau dans notre milieu, c'est ce qui fait ta force, quoi. C'est vraiment ce qui fait ta force.
Oui, bien sûr. Parce que finalement, un restaurateur, enfin, au vu de donc, tout ce que tu m'as raconté et puis de ton expérience dans le secteur, un restaurateur, il ne peut pas lui-même assurer ses médias sociaux. Enfin, c'est quelque chose qui est difficile à faire pour lui.
Je ne pense pas. Honnêtement, moi, j'essaye d'avoir une approche. Je leur dis toujours qu'en fait, ils savent le faire. Le problème, ce n'est pas de savoir ou de pouvoir, c'est comment tu vis ta semaine quand t'es restaurateur, et en fait, tes soucis opérationnels, ils prennent tellement toute ta tête que t'as tendance à déléguer ce genre de mission. Mais nous, on essaye de les former, en fait, parce que, je sais pas, avoir un budget de 1000 euros par mois pour de la com, c'est top, tu vois, c'est bien, mais si à terme, t'arrives à internaliser cette compétence, c'est d'autant mieux, parce qu'après, tu vas pouvoir te développer avec, en interne, quelqu'un qui gère ta com. Donc du coup, nous, on est dans une approche très pédagogique avec nos clients.
En fait, vous leur donnez les solutions clés en main ou pas du tout?
On leur donne pas les solutions clés en main, mais en tout cas, on leur explique tout ce qu'on fait et pourquoi on le fait.
Et vous, du point de vue, du coup, si vous agissez en tant qu'agent de com pour ces restaurateurs, est-ce que c'est pas dur de leur faire toute une stratégie marketing, une stratégie donc de promotion, alors que vous n'êtes pas dans le restaurant tout le temps, que vous n'y travaillez pas? Parce que finalement, c'est aussi une... Nous, ce qu'on peut voir en tant que consommateur, justement, sur les réseaux sociaux d'un restaurant, c'est vraiment les insights, comme on appelle ça. Enfin, c'est vraiment tout ce qui s'y passe, le quotidien, les photos de plats, le personnel, etc. Comment on peut faire quand on n'est pas vraiment employé à temps complet dans cet établissement ?
Il y a deux questions en une. Je te dirais que comment on peut faire quand on n'est pas employé, du coup, nous, c'est notre cas. Malheureusement, on va y aller 2 jours d'affilée, on va créer plein de contenu, et ensuite on va faire croire aux consommateurs que c'est de la vie quotidienne, et on va poster petit à petit tout le contenu qu'on a généré en 2 jours. Ça, c'est honnêtement ce que font énormément d'agences. Après, nous, comme je t'ai dit, du coup, l'approche qu'on a, elle est très pédagogique, et du coup, on va plutôt inviter le restaurateur et ses équipes à créer eux-mêmes du contenu, qui soit du contenu spontané, parce qu'en fait, je crois que c'est ce qui manquait, en fait, à toutes ces stratégies de com, c'est vraiment la spontanéité. Et après, c'est vrai que moi, par exemple, je passe beaucoup de temps chez mes clients, dans les restos de mes clients. Parce que si tu t'imprègnes pas de l'univers, si tu parles pas avec leur équipe, si tu comprends pas leurs problématiques, enfin, moi, ça m'arrive très souvent de passer derrière la caisse et puis finalement de les aider pendant 2 minutes, tu vois.
Ça te manque trop.
Ouais, je crois qu'il y a ça aussi, en fait. Je crois qu'il y a ça. Mais tu sais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est même au-delà du fait que ça me manque. J'ai l'impression que moins je suis dedans, plus je m'éloigne de la façon dont évolue ce métier. Et du coup, je vais même te dire, j'ai repris des extras depuis janvier. Je fais des extras chez un ami très 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 proche qui vient d'ouvrir son resto. Et je lui ai proposé, je lui ai dit, est-ce que je peux venir t'aider le vendredi soir?
Oui, pour pouvoir appréhender encore le métier, l'opérationnel, et puis pour pouvoir aussi adapter ce que tu vends, parce que finalement, il faut que tu aies une vision un petit peu opérationnelle pour pouvoir proposer des solutions.
Ah bah complètement. En tout cas, ceux qui arrivent à proposer des solutions sans vision opérationnelle, chapeau bas, quoi. Parce que moi, c'est toute mon inspiration, elle vient de là. Elle vient du client qui va me dire « Je vous ai pas trouvé sur Instagram. » « Ah, tu nous as pas trouvé sur Instagram.
Je vois. Et actuellement, vos solutions, donc l'ensemble, le Click and Collect et l'agence de com, vous avez développé ça donc sur Paris. Et sur votre site internet, il y a aussi marqué Lyon et la Corse. Quels sont vos partenaires à Lyon ?
Alors, malheureusement, avec le coronavirus, ça risque d'être problématique. Mais en fait, on était en test depuis le mois d'octobre sur le food market de la Part-Dieu, avec un des corners qui s'appelle Poots Corner. Mais malheureusement le food market était un projet éphémère, donc je ne sais pas s'il va pouvoir ouvrir tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais c'était un beau projet parce que les food courtes à Lyon, ça se développe énormément. Donc nous, on suit énormément ce qui se passe déjà à Lyon, parce que c'est quand même la ville de la gastronomie.
Bien sûr.
Et je dirais que c'est un peu la suite logique. Une fois que tu as ton petit réseau parisien, pense à aller à Lyon, et puis après tu descends un peu plus bas, tu passes par Marseille et tu vas en Corse, quoi. Enfin, en tout cas,
pourquoi la Corse ?
Et la Corse, c'est un peu de l'opportuniste, mais en fait une amie d'amis qui a une boîte dans le marketing digital, et en fait ses premiers clients, ça a été des restos. Et elle cherchait des solutions pour pouvoir calculer son retour sur investissement, et donc en fait... le Click and Collect est arrivé en Corse l'année dernière, et du coup c'est un tout petit monde, hein, la restauration en Corse, c'est des familles en fait.
Donc leur proposer des solutions digitales, ça doit pas être facile.
Et bah on pourrait croire, ça c'est un peu l'esprit parce qu'on est loin de la Corse, mais en fait finalement ils sont assez chauds, d'autant que il y a une vraie problématique de saisonnalité, c'est-à-dire que tu passes mai, juin, juillet, août à te faire 10 000 euros jour de chiffre. Et le reste de l'année, tu fais même pas 1 000 euros, quoi. Et donc, tout ça, il te faut des solutions pour être bien opérationnellement.
Pour gérer les flux.
Exactement. Exactement.
A été confronté à ça, bien sûr. J'ai une petite question pour toi. Quelles sont, finalement, tes inspirations au quotidien ? Bon, outre le confinement actuel, où bien sûr, il y a beaucoup plus de temps pour faire des choses, mais sinon dans la vie habituelle, si on peut dire ça comme ça, quelles sont tes inspirations, où est-ce que tu trouves justement toutes tes idées, peut-être aussi pour aider tes restaurateurs à la suite, qu'est-ce que tu fais au quotidien ?
Alors la première chose qui me vient à l'esprit, c'est les podcasts. Vraiment, ça fait pas longtemps, hein, ça doit faire 1 an et demi que je m'y suis mise, mais en fait moi, je suis en scooter toute la journée. Je suis sur mon scooter pour aller en rendez-vous, etc. Donc, des fois, je fais des 4 heures de scooter par jour. Et en fait, j'ai toujours un écouteur dans l'oreille parce que 2, c'est interdit. et j'écoute que des podcasts. Donc, beaucoup sur l'entrepreneuriat, notamment celui que j'ai absolument saigné, c'est Génération du Do It Yourself de Mathieu Stéphanie.
Tout à fait, moi aussi.
Je crois qu'on l'a tous fait, malheureusement. Faut pas lui dire, il va prendre la grosse tête. Et voilà, et tout un tas d'autres, donc vraiment axés entrepreneuriat ou notamment, il y a un super podcast sur le marketing. J'essaye d'apprendre des choses tous les jours.
C'est un très bon moyen de se former et finalement d'apprendre beaucoup de choses. Quand on est un peu curieux, je pense que... Enfin, personnellement, moi, c'est un très bon moyen aussi que j'ai trouvé pour pouvoir apprendre et m'enrichir au quotidien.
Ouais, je suis totalement d'accord. Le seul truc que j'ai pas encore réussi à faire, c'est optimiser mon temps de douche parce qu'en fait, j'entends pas le podcast quand il y a ma douche. Mais j'y arriverai, je pense.
J'ai exactement la même problématique, c'est fou.
Et sinon, voilà, à part les podcasts, moi, j'adore lire. J'ai toujours lu et je lis encore. Et donc, j'ai 2-3 livres que je relis de temps en temps qui ont vraiment eu un impact sur moi. Alors, peut-être pas sur les autres, mais il y en a un sur la quête et le rêve. C'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. C'est ma passion, ce livre.
Un très beau livre, ouais. Il est génial. Je pense, pour commencer dans les lectures un petit peu philosophiques, tout ça, c'est hyper, hyper intéressant à lire.
Ouais, et très très simple et très accessible. Et après, sinon, j'ai des livres plus sur l'entrepreneuriat, type On m'avait dit que c'était impossible, Lean Startup, Hard Things, enfin des livres comme ça qui m'accompagnent un peu au quotidien.
C'est vrai que moi, je suis comme toi, j'écoute beaucoup de podcasts, etc., mais je peux pas vraiment mettre en pratique encore tout ce que j'apprends, puisque forcément, je suis encore étudiante. Mais toi, tu dirais que c'est vraiment un outil qui t'aide au quotidien pour ton business, pour...
En fait, c'est dingue, mais si je le fais pas, je reste en réflexion qu'avec moi-même, et s'écouter, c'est pas ouf, parce que tu tournes en rond, etc. Et en fait, en le faisant, en lisant des livres, en écoutant des podcasts, tu fais des ponts avec tes problématiques opérationnel, tu fais le lien et en fait ça fait un effet rebond dans ta tête et là bim bam tu te dis oh putain je pourrais complètement appliquer cette stratégie sur d'ailleurs toute autre chose en général et voilà et ouais je te dirais que franchement ça a un impact très très fort.
C'est une belle initiative déjà d'entreprendre les podcasts et la lecture, je pense que c'est déjà un bon moyen pour commencer surtout quand on est entrepreneur comme toi. Écoute, j'ai une petite question de fin pour toi, et c'est ma question signature sur le podcast. J'aimerais savoir quel sens tu donnes à l'hospitality, parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup en anglais, et je voudrais savoir qu'est-ce que tu donnes comme signification à ce mot, toi.
La première ref qui me vient, c'est l'hospitalité, et du coup, c'est le savoir accueillir, quoi. Savoir accueillir, savoir servir, c'est pas anodin quand un serveur s'appelle un serveur. J'ai fait une petite histoire sur pourquoi on dit restaurant. Pourquoi un restaurant s'appelle un restaurant, tu vois.
Je t'écoute.
Et en fait, c'est dingo, mais donc ça vient évidemment, enfin évidemment, mais j'y avais pas pensé, du mot restaurer. Donc restaurer, refaire, redynamiser, redonner de l'énergie. Et en fait, il y a un monsieur qui a ouvert une petite boutique, ça devait être en 1600 et quelques, qui a ouvert une petite boutique dans laquelle il vendait, il commercialisait du bouillon. Donc un bouillon à base de beaucoup de légumes, beaucoup d'aromates, et c'était un bouillon qui donnait la pêche, quoi. C'était la potion magique d'Astérix et Obélix. Et il a appelé son bouillon « celui qui te restaure », donc le restaurant. Et en fait, il le vendait à tous ceux qui étaient malades, faibles, qui se sentaient pas bien, etc. Et quand tu prends conscience que ton métier... c'est de restaurer, donc c'est de redynamiser les gens que tu rencontres, je te dirais que c'est ça pour moi l'hospitality.
Et redynamiser. Exactement. C'est une super interprétation, j'adore. J'aime beaucoup. C'est beau. Alors écoute, où est-ce qu'on peut te retrouver peut-être sur les réseaux, etc. C'est le moment de donner la ref.
L'autopromo. sur le compte Instagram du coup de Siouplait, S-I-O-U-P-L-A-I-T, comme s'il vous plaît, mais en Siouplait.
À la française.
Voilà, on est très actifs sur Insta. Et après, à titre perso, moi j'aime beaucoup LinkedIn pour l'approche. Je lis mes messages alors que je les lis plus sur Messenger, donc désolée à tous mes potes et ma mère. LinkedIn et Instagram.
Plus pro que perso finalement.
Bah ouais, je crois que c'est ça aussi quand t'es entrepreneur, d'autant que je suis jeune, j'ai pas de famille, j'ai pas d'enfants, quoi, donc pour l'instant, ma priorité, c'est ma boîte, quoi.
Bon, Nora, je te remercie pour avoir accepté donc cette invitation. C'est un bon moment. Et puis, j'espère te réinterviewer bientôt pour peut-être après le confinement, voir comment toute l'activité reprend.
Top. Ben, merci à toi et bravo pour cette initiative. Bon, je crois qu'on en avait besoin.
Un grand merci pour le temps que vous avez pris pour écouter ce magnifique parcours. Vous auriez pu écouter la radio, écouter de la musique ou bien regarder une vidéo sur internet. Mais non, vous avez écouté le podcast. Alors un grand merci à vous. Et si l'épisode vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à laisser un petit commentaire sur Apple Podcast ou bien 5 étoiles de préférence. Et bien sûr, à recommander ces épisodes à vos proches et aux gens autour de vous. Ça peut toujours en aider d'autres. Aussi, vous pouvez nous retrouver, que ce soit moi ou Nora, sur Instagram, @s'il vous plaît, @esprithospitality. À bientôt !